France Culture.
Jean L'Huillier, vous êtes pompe funèbre ?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui justifie
directeur des pompes funèbres de Mayotte.
Qu'est-ce qui justifie le gyrophare, là ?
Là, je pars sur une réquisition de police.
Les corps échoués sur les plages, accrochés aux branches des arbres de la mangrove, repêchés par les compagnies touristiques qui emmènent les touristes dans le lagon et qui trouvent des corps, ça fait partie de votre quotidien ou c'est rare ?
Non, malheureusement, c'est pas rare. Malheureusement, c'est une hécatombe. Ces embarcations ne sont pas prévues pour ça. Elles sont prévues pour 4-5 pêcheurs, pas 40 personnes. Donc les naufrages sont extrêmement fréquents et on ne trouve que très peu de corps.
Mayotte, dernier des départements. Premier épisode, Jazirat al-Maut, l'île de la mort. Un documentaire de Raphaël Kraft et David Jakubowiez.
Vous pouvez me décrire la vue, l'endroit où est-ce qu'on est ?
La vue, elle est assez emblématique de Mayotte. Mayotte, c'est un des plus beaux lagons du monde.
François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte.
80% de la biodiversité marine est présente à Mayotte. 800 espèces de coraux, 600 espèces de poissons. Et donc vous avez devant vous ce lagon, à la fois merveilleux et fragile. Et donc il faut le protéger pour pouvoir le transmettre aux générations futures.
Alors ce lagon, il a donné le nom à l'île de Mayotte, Maut, l'île de la mort,
oui.
Puisque lorsque les bateaux, les boutres à l'époque, lorsque les commerçants d'Oman ou du Shiraz venaient jusqu'ici, eh bien ils se retrouvaient dans des situations de navigation difficiles et souvent coulaient.
Effectivement, c'est une île composée de deux îles, la Grande Terre et la Petite Terre, entourée d'une barrière de corail qui est extrêmement présente. À marée basse, on peut y marcher dessus. Donc ça veut dire qu'elle est à fleur de mer et qui font que cette île a eu effectivement une forme de protection naturelle qui lui a donné son nom parce que ça rendait la navigation à l'entrée du lagon extrêmement difficile et périlleuse.
Jean L'Huillier, vous arrivez à Mayotte dans les années 90 et au début de l'année 2000, vous êtes sollicité pour aller chercher 17 corps sur une plage de petite terre, la plage de Moya. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement qui va vous faire entrer dans le métier des pompes funèbres ?
C'est très simple. À l'époque, je suis chef d'entreprise, je suis réserviste de la Légion étrangère. Je retrouve un frère d'armes qui arrive comme sous-préfet à Mayotte. Il est confronté à la découverte de 17 corps sur une plage. N'ayant pas de service funéraire sur l'île, n'ayant pas de moyens techniques, n'ayant pas d'application réglementaire, puisque le droit commun ne s'applique pas à cette époque-là. Mayotte est une collectivité départementale à l'époque. Il m'appelle à 5h30 du matin et il me dit « Un gendarme va arriver, tu vas le suivre, tu vas faire ce qu'il y a à faire. » Arrivé sur place avec le gendarme, effectivement, on découvre 17 corps sur la plage, je les charge dans le camion, je mets une bâche et je retourne au bureau du préfet en lui demandant ce que j'en fais. Et il me dit « Le propre du militaire, c'est de s'adapter, adapte-toi. » J'ai donc inhumé ces corps, voilà, ça a été mon premier dossier. Au début, c'était un service rendu à un frère d'armes parce que la nécessité du service. Ensuite, c'est devenu régulier. À tel point que j'ai créé mon entreprise de pompes funèbres sur demande de l'État. Et lorsque le département a été décrété, construit, lorsque le droit commun s'est appliqué...
En 2011,
moi j'étais prêt. J'étais le seul, mais j'étais prêt.
Mais cette demande qui vous est formulée, elle est liée aux morts en mer ?
Exclusivement aux morts en mer. Excusez-moi.
Donc si en 2004, c'est exclusivement pour récupérer sur les plages, dans la mangrove, les morts en mer, que l'État vous demande de créer votre entreprise, ça veut dire qu'il y en a un certain nombre que vous récupérez. Il y en a combien que vous avez récupéré depuis 2004, c'est-à-dire depuis 21 ans ?
Alors, systématiquement, je travaille sur réquisition de justice. Qui dit réquisition de justice, dit obligation de silence. Donc je ne peux pas vous dire combien j'en ai fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est beaucoup trop à mon goût. Et tout ça est généré par le décret Balladur qui a coupé court aux pratiques anciennes, à savoir que Mayotte, géologiquement, on fait partie de l'archipel des Comores, puisque les Comores, c'est quatre îles.
Et culturellement, peut-être ?
Et culturellement aussi, religieusement aussi. Voilà.
En 2012... un rapport sénatorial fait état de 7 à 10 000 morts depuis l'instauration du visa Balladur en 1995. Est-ce que ce chiffre vous paraît sérieux, conforme à l'idée, en votre qualité de croque-mort, que vous vous faites de la mortalité entre l'île d'Anjouan et l'île de Mayotte ?
Vous savez, si je prends le dernier Kwassa, il y avait 26 personnes à bord, on a retrouvé 6 survivants. Un corps. Il arrive 20 poissons par jour. On ne sait pas exactement combien coule. On ne compte que ceux qui arrivent. À mon avis, c'est largement erroné. Largement dépassé. On ne peut pas être insensible à ça. Je suis humain. Le respect du haut mort est le même que le respect du haut vivant. Qu'il soit migrant clandestin ou qu'il soit citoyen français de Mayotte, le respect du haut mort est le même. Maintenant, il est plus compliqué de gérer le corps de personnes décédées en mer dans le cadre de l'immigration clandestine pour deux raisons principalement, en dehors de l'état des corps. Hein. Il y a l'aspect familial. À l'époque, 70% des corps repêchés représentaient des prises en charge administratives et financières imposées aux administrations ou aux communes, parce que les familles, ayant peur des forces de l'ordre, ne venaient pas reconnaître les corps, ne venaient pas faire les formalités, parce qu'elles se sentaient exposées au rapatriement forcé.
Et donc à une potentielle traversée, à un potentiel naufrage.
Exactement, pour revenir. Le problème des familles est toujours le même aujourd'hui, même si, à force d'ouvrir mes portes, je me suis retrouvé un petit peu envahi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, à chaque fois qu'un naufrage est annoncé, je suis la première personne chez qui on vient ou à qui on téléphone, pour savoir si j'ai les corps, si on peut les voir. Et j'ai toujours renvoyé les familles dans ce cadre-là, vers les forces de l'ordre. Et ça a demandé un peu de temps, un peu de travail, beaucoup de patience, pour faire accepter aux forces de l'ordre de recevoir ces familles en leur garantissant une immunité momentanée. Pour que justement l'identification soit plus aisée et que l'on puisse rentrer dans un cadre normal et légal.
Humain.
Humain. Aussi.
Ça a l'air de rien, mais si vous naviguez comme ça pendant 8 heures, 10 heures, les collègues ils sont rincés. Donc le tout c'est être et tenir. Et c'est un vrai métier, et faut aimer la mer. Si vous êtes sujet au mal de mer, ce qui est mon cas, vous pouvez passer des vacations compliquées.
Majoral Malem,
chef de l'unité nautique de la PAF.
J'ai passé 2 ans à vomir avant de m'acclimater. Donc je me donne des challenges et la mission est belle. C'est la seule unité de France de cette ampleur-là, avec cette mission-là et avec ses moyens. Parce que mine de rien, 4 intercepteurs, 52 personnels en qualité de chef d'unité, c'est une belle unité et c'est une thématique qui est unique. C'est pour ça que je l'ai choisi. Vous voyez là par exemple, des récifs comme ça, vous en avez un petit peu partout. Donc aujourd'hui, on a des outils numériques qui nous permettent de travailler en sécurité, mais les Kwasa, ils n'ont pas ça. Donc quand vous avez un pilote qui est amateur et qui arrive par là, il se voit arriver de nuit, il se dit c'est bon, je suis à Mayotte, il passe sur un récif, il chavire. Et ça, vous en avez des centaines sur le secteur.
L'enjeu de Mayotte, c'est évidemment de protéger sa frontière et de protéger
François-Xavier Bieuville.
Les grands équilibres mahorais, politiques, économiques, sociaux, environnementaux, d'une immigration qui peut impacter.
Préfet de Mayotte.
Et qui impacte, et qui peut fragiliser, et qui parfois fragilise la société mahoraise.
Vous êtes arrivé au début de l'année 2024, au même moment, le ministre de l'Intérieur d'alors, Gérald Darmanin, a évoqué la constitution ici d'un rideau de fer, ce sont ces mots. Qu'est-ce que c'est que ce rideau de fer ?
Donc le rideau de fer, c'est un dispositif qui est une meilleure détection, une meilleure anticipation, une meilleure prise en compte des tentatives de pénétration sur le territoire national, et ensuite la mise en œuvre d'une chaîne logique de prise en charge, de rétention et de reconduite. Et ce rideau de fer, nous sommes en train de le mettre en place. Il est composé de radars, plus grande distance, plus grande capacité de détection, plus de précision. Il est constitué de drones, il est constitué de ces caméras Spinel qui puissent voir à très grande distance, et il est constitué d'un système de reconnaissance par voie satellitaire qui sera posé sur tous les navires qui sont censés croiser dans la zone. Et puis dernier élément, on a un aéronef au départ de Mamoudzou et de Dzaoudzi qui permet d'aller faire des reconnaissances et de faire une levée de doute. Tout ça, c'est un dispositif qui a pour vocation de mieux appréhender, de mieux intercepter, et donc de mieux retenir et donc de mieux reconduire à la frontière.
Un jour, j'étais allé à la campagne, quand je suis rentré ici, j'ai trouvé les gendarmes en haut là-bas.
Ahmed Oumadié Mortada.
Je ne sais pas ce qui se passe.
Pêcheur, constructeur de bateaux de pêche, en Joanet.
Je descends là, je vois les gendarmes, ils sont venus pour moi. Il m'a dit, monsieur, on vous réquisitionne.
Réquisitionné par la gendarmerie pour récupérer des corps de naufragés.
Ok, tu prends votre preuve, tu vas nous aider d'aller prendre toutes les morts, de les faire monter sur notre bateau là, puis tu vas retourner. Ils ont des bateaux, mais le bateau ne peut pas descendre sur les rochers. Dieu était là. Il est obligatoire, j'ai le moyen, il faut que j'y aille.
Obligatoire de s'occuper des morts.
Oui, oui, c'est obligatoire. J'ai fait tout ce travail, quand j'ai fini, quand je suis rentré là, j'ai trouvé toutes les villageois sont là. Il reste tout à me rentrer dans mon cœur, m'ont insulté. C'est toi que tu vois que tu es venu ici, tu vas aider les gendarmes pour aller prendre toutes les morts là. On a refusé que les gendarmes, non, les morts ne rentrent pas ici. C'est toi, tu es venu en joignant, tu vas aider les gendarmes pour aller prendre les morts. Tu es juste là. Ils m'ont entouré, imbécile, tu es, surtout les femmes. Mais j'ai une bouche bête comme ça. Hey, tu es venu ici, on a refusé que les gendarmes sont morts, on s'en fout avec les Anjouanaises. Mais je me dis, dans mon cœur, on ne sait pas où on va mourir.
Il y en avait combien ?
On a eu 4. Un petit bébé, et une femme et 2 adultes.
Comment vous avez vu évoluer
à la fois la lutte contre l'immigration clandestine, la LIC, et à la fois les traversées.
On a eu une augmentation notable, sensible, du nombre d'embarcations qui se livrent à la traversée entre Anjouan et Mayotte.
Major Almalem, chef de l'unité nautique de la PAF.
Aujourd'hui, vous avez les Kwassa qui rentrent tout secteur nord, sud, est, ouest. Et on a évolué en termes de moyens, de nombre de personnel. Donc c'est une thématique qui a été prise à bras-le-corps, dirais-je, et qui... On a eu la nécessité de nous adapter, tant en termes de moyens que de coordination.
Vous alliez dire que les efforts budgétaires, capacitaires consentis n'ont peut-être pas les résultats attendus dans la mesure où le nombre de Kwassa augmente.
Alors c'est pas aussi simple que ça, c'est pas une question de budget, de résultats. Si je reprends un petit peu d'historique, quand on a récupéré l'unité nautique en 2017, c'était un vecteur et 22 personnels. Là aujourd'hui, on est à 5 vecteurs et 52 personnels. Donc il y a quand même eu une augmentation très conséquente en fait, des moyens engagés. Et la mission porte ses fruits, mais les gens s'adaptent. Donc on s'adapte également et on apporte une réponse que l'on espère efficace. Ce qui est en revanche pas compliqué, mais étrange effectivement de temps en temps, c'est d'arraisonner un Kwassa le lundi et de retrouver le même passager quelques jours ou quelques semaines plus tard. Peu importe, vous dirais-je, la mission est d'arraisonner les embarcations qui se présentent sur les côtes mahoraises, que ce soit des passagers multi-réitérants ou des nouveaux arrivés. Ça ne change pas le sens de la mission ou la nécessité de le faire. Il faut voir Mayotte aussi, et Anjouan, Moilly et Grande Comore, comme une île où vous avez tout le monde a de la famille, d'une île à une autre. Donc vous allez avoir, historiquement, il y a toujours eu ce transit, ce trafic, ce transport d'île en île. Donc à l'occasion de fêtes religieuses, à l'occasion de vacances, vous allez avoir plus ou moins de traversée. Ensuite, sur les horaires, évidemment, la nuit, c'est quand même une période qui est quand même plus propice à la commission d'infraction, parce que on travaille sous le couvert de l'obscurité. Donc c'est des périodes où on va quand même avoir un petit peu plus d'arraisonnement qu'en pleine journée, à midi, à l'heure où tout le monde a une visibilité à plusieurs kilomètres sur le plan d'eau.
J'imagine que c'est très facile de trouver un bateau, un Kwassa, comme on l'appelle, pour venir d'Anjouan jusqu'à Mayotte. Jassadi, citoyen comorien à Mayotte.
C'est facile de trouver si tu as les moyens. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas facile.
Et vous aviez l'argent?
J'ai trouvé l'argent à cause de mon père qui avait des ébus, qui les a vendus pour me donner l'argent pour que je puisse venir ici et après le payer après.
Et ça dure combien de temps la traversée entre Anjouan et Mayotte?
On est parti à 15h et à 18h on est juste sur le quai de Mayotte. Mais ce qui est arrivé, c'est l'accident après.
Alors, que s'est-il passé justement?
Avant de rentrer à Mayotte, il y a la police de frontière qui nous a trouvé. Et la police de frontière nous a dit de faut couper le moteur, faut qu'on s'arrête, mais les capitaines qui a amené le Kwassa, ils ont refusé de s'arrêter. Mais vu qu'on ne s'arrêtait pas, la PAF, à chaque fois, ils nous tapaient à côté pour qu'on s'arrête et pour qu'on soit chaviré nos bateaux, vu que c'est un petit bateau. Du coup, à chaque fois, ils tapaient. Du coup, ils ont plié une partie là où j'étais assis. Et la partie commençait à rentrer beaucoup d'eau. Et puis, je suis tombé dans l'eau. Du coup, moi, dès qu'ils étaient en train de reculer, c'est là qu'ils Ils m'ont pris par surprise parce que je ne les voyais pas, c'était sombre. Quand ils reculaient, ils avaient éteint les lumières. Et puis, ils ont allumé, ils m'ont foncé dessus, ils m'ont tapé le devant de leur bateau sur ma tête. Je saignais. Et puis, je suis passé sous le ventre de leur bateau. Et c'est là que je suis rentré directement dans leurs hélices. Et je me suis fait couper les jambes.
Après, là, Kawapara et bateau, maintenant, ça imagine.
Et puis, dès qu'ils m'ont passé dessus et que je suis passé sur les hélices, ils essayaient de repartir. J'ai hurlé une fois, ils ne m'ont pas entendu. Deux fois, ils ne m'ont pas entendu. Troisième fois, c'est là qu'ils m'ont entendu. Du coup, ils ont fait demi-tour pour me regarder. Et d'un seul coup, ils me demandent « ça va ?» J'ai dit « ça va ». Puis, vu qu'ils m'ont lancé la corde, j'ai tenu la corde. Et puis ils m'ont tiré jusqu'à leur bateau et après ça, je ne me souviens plus. J'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, je me suis trouvé directement à l'hôpital. Et puis quand je suis allé à l'hôpital, quand je me suis réveillé, je demandais au docteur, j'arrive pas à sentir mes pieds. Est-ce que j'ai mes pieds? Et le docteur ne m'a pas répondu. J'ai fait 6 mois à l'hôpital. Du coup, ils ont essayé de trouver un contact de mon père. Et puis, ils ont appelé mon père pour qu'il amène mon passeport ou une pièce d'identité pour que je puisse être évacué à La Réunion. Et mon père a pris aussi le Kwasa pour venir ici avec le document. Et jusqu'alors, depuis ce temps-là, jusqu'à là, je suis là. Je ne suis jamais parti à La Réunion. Pour les traitements qu'ils m'ont dit que je dois aller à La Réunion faire des traitements.
Quelle est la situation au niveau du tribunal? Est-ce que il y a des poursuites qui ont été ordonnées contre les policiers qui vous ont fait ça?
Mon avocat avait fait un recours pour que l'enquête soit poursuivie, mais quand on était au tribunal, le juge du parquet avait dit que c'était de ma faute parce que je me suis jeté à l'eau pour essayer de m'enfuir. Et c'est pour ça que leur bateau me passait sur la tête et puis j'ai traversé les hélices sous leur bateau. Du coup, c'était pas de leur faute, mais c'est de ma faute. Du coup, l'avocat avait fait un recours, mais jusqu'à là, je ne sais pas, on ne me dit rien. Je ne sais pas si l'enquête se poursuit ou s'il y a d'autres choses qui ont été découvertes. Du coup, là, je suis simplement dans un silence. On ne me dit rien.
En fait, juste pour peut-être recontextualiser, moi, je suis arrivée à Mayotte en septembre 2011.
Marjane Gaem.
Et comme tout le monde, j'avais à l'esprit toutes ces histoires que l'on vous raconte.
Avocate, membre du GISTI.
D'interception en mer et de mort en mer. Mais c'est un sujet que mes clients n'ont jamais abordé. Est-ce que ça apporte quelque part la malchance ou le malheur de se remémorer? Mais en tout cas, c'est un sujet qui est tabou à Mayotte. Et donc, ma rencontre avec Jassat, c'est ma première rencontre et ma seule d'ailleurs en 9 ans de présence sur le territoire avec une personne qui a vraiment vécu ce que beaucoup racontent, c'est-à-dire des courses-poursuites, parce que la police aux frontières veut absolument intercepter le Kwasa et donc va essayer de bloquer cette embarcation et il peut s'en suivre donc des blessés et des morts. Je pense que malheureusement tous les morts en mer qu'il y a eu, il n'y a aucune enquête qui est ouverte pour déterminer les causes de cette mort. Là, la saisine du juge d'instruction et finalement l'enquête qui doit se déclencher fait qu'il y a des éléments et il y a certains policiers qui n'approuvaient pas le comportement de leurs collègues.
Selon nos informations, le navire de la police aux frontières, un semi-rigide baptisé le Makini, n'est pas aux normes. Son capitaine n'a pas les diplômes pour piloter ce type de navire. Comment se fait-il?
C'est l'île Manyenye. Manyenye en Chimaoré signifie mal fait. Il ne respecte pas les différentes normes de sécurité, puisque en réalité, il n'y a pas de contrôle. Après, moi, ce qui aujourd'hui me terrifie dans ce dossier, c'est qu'on est en train de parler de faits qui sont survenus en novembre 2019. Au jour où je vous parle, on est en avril 2025, et que l'instruction n'est toujours pas close. Et elle me semble, en tout cas, comme en sommeil. Alors, je ne suis plus l'avocate de Jassadi dans ce dossier, puisque quand j'ai quitté Mayotte, j'ai confié le dossier à une consoeur. Mais il me semble qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de faire durer cette instruction sans avoir mis en cause ne serait-ce que des policiers de la police aux frontières.
Jusqu'à l'apparition de la Méditerranée centrale dans l'actualité et ses morts en mer, on parlait de Mayotte, ou en tous les cas du bras de mer entre Anjouan et Mayotte, comme étant le plus grand cimetière marin du monde. Et depuis, on n'en parle plus.
Non, on n'en parle plus, et c'est quasi impossible d'avoir des chiffres, puisque du côté comorien, il n'y a aucun décompte qui est réellement tenu. C'est très très difficile d'avoir des informations, et lorsqu'il y a un accident de Kwassa, en réalité tout ça est très très vite bouclé, caché, rangé. Les corps, il n'y a pas d'autopsie, mais c'est à tous les niveaux. Moi j'ai une maman qui avait perdu son enfant dans le centre de rétention, et l'enfant avait été... Il n'y avait rien pour pouvoir faire l'autopsie. Il l'avait oublié dans un frigo qui n'était pas aux normes. Et ces histoires-là, elles se répètent, en fait, si vous voulez. Tout ça, c'est su. C'est voulu. C'est pas... oups, il n'avait pas le diplôme. C'est une organisation. C'est comme un peu les violences policières. C'est pas un tel qui est violent. C'est une organisation systémique. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Pour moi, c'est au niveau de la hiérarchie. Il y a des ordres qui sont donnés.
Bon, t'as vu ça? Regarde.
Non.
Hein?
Pas celui-là. Ça, c'est triple X. Il me faut un seul X.
On sait pas qui c'est?
Non, c'est pour ça qu'il est sous X. C'est un naufragé.
Avec Jean L'Huillier à la morgue du centre hospitalier de Mayotte.
C'est quand tu as mis les trois housses?
Ça fait trois jours, là.
C'est pas ton emballage qui compte bien, c'est l'atmosphère dans la pièce, c'est l'atmosphère du frigo, c'est les gaz, c'est les bactéries. C'est ça qui est dangereux, Ben.
Mais je vous dis, les frigos sont bons.
C'est un adulte?
Ouais, c'est un adulte.
Sexe masculin, féminin?
Masculin.
Ça fait trois semaines qu'il a été trouvé. Ça fait trois semaines qu'il est mort. Hein.
Oui.
Le corps va être enterré bien plus tôt. Moi, j'ai le droit de congeler, pas vous. Ce que vous avez fait à la petite dame l'autre jour, c'est pas beau. C'est interdit. La mettre dans le congélateur pour bébé. Là.
Mais parce que tu n'étais pas là.
Puis vous n'avez pas le droit de l'oublier pendant 6 mois. Non, ça c'est illégal, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le respect qu'on doit aux vivants, on doit le même aux morts, hein. Voire plus.
Que moi qui peux les conserver de façon correcte, je veux dire.
Jean L'Huillier, directeur des pompes funèbres de Mayotte.
Pendant de longues années, j'emmenais systématiquement le corps chez moi parce que l'hôpital n'était pas en mesure de réceptionner ses corps.
Il n'y avait pas de morgue.
Il y avait une chambre funéraire qui a été aménagée il y a une dizaine d'années pour 2 places. Quand il y a 8 corps sur la plage, ça ne rentre pas. Donc ça vient chez moi. Depuis le 5 décembre dernier... les capacités de l'hôpital passaient de 2 à 12 places. Or, la réglementation impose le type de carrelage, la largeur des portes, le système de filtration d'air, le système de traitement des eaux usées, des flux corporels, et la méthode de conservation. Or, le CHM n'a en rien respecté cela, puisque, pour vous donner une idée, je vous ai montré des photos, vous êtes venu vous-même avec moi au centre hospitalier, lorsqu'on ouvre une porte de frigo qui semble être un casier individuel, on se rend compte qu'en fait, c'est pas individuel. Tous les corps sont dans la même atmosphère. Il n'y a pas de séparation, c'est pas cloisonné. Ce n'est pas en température négative. À l'heure actuelle, il y a un corps qui séjourne au CHM depuis le 11 février dernier. Il a été transporté au CHM en totale décomposition.
Puisque trouvé sur une plage, en l'occurrence la plage de M'Tsamboro.
Oui, issu d'un Kwassa, en décomposition, puisqu'on a mis un peu de temps pour le trouver. Bah, effectivement, ce corps représente un risque majeur d'épidémie pour la santé publique, ça, et rien n'est fait pour qu'il sorte de là.
À demain, l'autre.
Ben, l'autre, je sais pas, j'ai pas la réponse de la mairie.
On attend, alors. Au revoir, Jean.
Salut.
Je reviens aux morts en mer. Un certain nombre de corps s'échouent sur les plages de Mayotte et depuis quelques mois, plus récemment avec le maire de Ntsamboro, les maires maorais, quelques-uns des 17 maires maorais, se plaignent de devoir prendre en charge les obsèques de ces corps sous X et menacent de ne pas assumer les coûts de leur inhumation, lesquels se retrouvent à la morgue du CHM, où nous n'avons pu nous rendre, où la température est positive à plus 7 degrés, où les corps sont en état de décomposition lorsqu'on les découvre, où l'un d'eux est là depuis plus d'un mois, ça devient un problème de santé publique, cette question.
Non mais vous présentez de façon froide et assez terrible une situation et vous ne pensez pas à ce que ça cache derrière, c'est-à-dire un drame humain.
François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte.
Voilà, moi je peux entendre tous les récits, je peux entendre toutes les complaintes, je peux entendre des problèmes techniques, de température dans une morgue, etc. Mais pensez d'abord à la situation de ces personnes, à cette histoire humaine qui se termine en mer de façon dramatique, avec des enfants, des parents, des femmes, des mères, des grands-pères qui, à la suite d'un chavirage de quoi ça, vont effectivement trouver la mort.
On parlait de l'infrastructure du CHM en matière funéraire. Mais on peut parler aussi de cette gestion, de cette structure. Puisque pour gérer un centre funéraire, une chambre mortuaire, il faut un diplôme d'état funéraire. Donc les délais, la température, l'infrastructure, les obligations qui leur sont faites et les droits des familles sont totalement bafoués par des gens qui n'ont pas les compétences. D'ailleurs, ils ont, quand vous êtes venus, vous avez vu qu'il y avait un couloir. Ce couloir est emprunté par les patients, et notamment les patientes qui seront dans gynécologie, pour le suivi de leur grossesse, qui se trouve au bout du couloir. Et donc, on retrouvait régulièrement des traces de vomi pestilentiel, parce que quand elles passaient là, elles étaient exposées et à l'odeur et aux microbes. Mais aujourd'hui, pour régler le problème, au lieu de gérer l'intérieur de la chambre mortuaire, ils ont mis des sas, donc les gens sont obligés de faire le tour, ils passent plus dans le couloir.
Sur le ponton du DTM, direction des transports maritimes, le 28 mars 2025.
Le sujet du jour, eh ben, c'est une problématique bien connue sur Mayotte, hein, à savoir le sujet SECMAR, l'assistance aux victimes, victimes de naufrages, victimes de tout sinistre qu'on peut rencontrer en mer.
Lieutenant de vaisseau Romain Pranveille, commandant adjoint opération de la base navale à Mayotte.
Ce qui a été jugé au terme de plusieurs groupes de travail, c'est que des capacités de maintien en surface de victimes et de première capacité de réaction des forces en présence à Mayotte ont été jugées insuffisantes.
Comment se fait-il que ces moyens arrivent 30 ans après les premiers morts en mer, 30 ans après le Visa Badadur de 1995 ?
Alors ça, c'est une question qu'il faut poser aux principaux concernés. Je ne suis aujourd'hui que le porteur du message, du matériel acquis par la préfecture, donc je ne me prononcerai pas sur ce type de problématique.
Garde ça dans la main. On a une coisse ou un cachaviré là. On a 5 personnes. Je vous invite à vous accrocher à cette bouée qui est là pour vous sauver. C'est prêt ?
Ils ne tiennent pas 12 là.
6 à 12.
On va voir les gabarits.
Accrochez-vous au filin blanc.
Ludo, 5 personnes sur la bouée, 5.
Je dirais à peu près 80% de nos missions sont de l'ordre du naufrage de masse.
Pierre Bedovato, 38 ans,
bénévole à la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer.
Et ça peut ensuite varier suivant si les personnes ont passé plus ou moins de temps dans l'eau. Malheureusement, souvent on arrive trop tard.
Ça fait combien d'interventions à peu près par an ?
Je crois que l'année dernière, on a terminé à peu près une centaine d'interventions en tout dans l'année. On fait partie des stations qui sortent le plus en France métropolitaine et Outre-mer.
Et vous êtes aussi la station qui est la moins dotée dans la mesure où les interventions payantes que vous faites sont assez rares.
Oui, tout à fait. C'est vrai que comparé à d'autres stations comme la station en Corse ou des stations métropole, nous, la station, c'est une toute petite station. On a un bateau, un Zodiac de 600 chevaux. On est limité avec le bateau à 24 000 des côtes. Avec une plus grosse vedette, on pourrait prendre déjà plus de victimes, on pourrait avoir du matériel plus lourd. Je pense qu'on pourrait clairement être beaucoup plus soutenu.
Vu le volume d'intervention que vous faites, comment se fait-il que vous n'ayez pas une vedette classique orange de la SNSM qu'on va trouver dans tous les ports de plaisance en France ?
Alors là, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est aussi une question politique, hein. Clairement, est-ce qu'on a envie de sauver et de publier qu'on sauve autant de migrants ? C'est peut-être une question sous-jacente qu'il faudrait poser au patron de la SNSM.
Est-ce que vous pouvez me faire le récit de votre dernière intervention ?
Alors oui, la dernière intervention, on a été déclenché à 9h30 pour un naufrage de masse au nord de l'île. Il y avait 12 personnes à bord, dont des mineurs. Sur ces 12 personnes, 9 ont été repêchées. Et il a manqué 3. Donc on cherchait notamment un jeune garçon et une jeune fille. Au bout d'un moment, on nous a appelés, puisque la jeune fille avait été retrouvée par l'un des bateaux de la police aux frontières. Et ils étaient déjà en train de commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Et nous, on est arrivés avec l'oxygène et puis pour prendre le relais. Donc là, ben, clairement, ouais, c'est du secourisme pur et dur. Et puis les massages cardiaques où on tourne à peu près toutes les 5 minutes, puisque c'est très physique. Hein. Et on l'a fait pendant une heure. Une heure où, en fait, c'est le médecin du cross qui doit nous dire arrêtez. Nous, on n'a pas le droit d'arrêter. Même si, effectivement, là, pour le coup, la jeune demoiselle avait déjà de la mousse au niveau de la bouche et du sang qui sortait, ce qui veut dire clairement qu'elle était dans l'eau depuis des heures. Et puis elle avait aussi une rigidité cadavérique assez forte. Et donc du coup, ben, au bout d'une heure, le médecin nous a quand même dit « c'est bon, vous arrêtez ». Et il a fallu qu'on la transporte au village le plus proche pour que un médecin du SAMU vienne en hélicoptère pour pouvoir faire l'acte de décès. Et on l'a laissé comme ça. Voilà. Et on a repris le bateau derrière.
Et son cadavre est resté plus d'un mois dans la morgue du centre hospitalier de Mayotte, qui apparemment n'est pas aux normes, puisque lorsque nous nous y sommes rendus, elle était à plus de 7 degrés.
Ah, je trouve ça horrible, surtout qu'en plus, j'ai mis tout mon cœur pour essayer de la sauver, et même si les chances étaient infimes, j'ai toujours son visage en tête, et c'est vrai que de me dire qu'on l'a laissé comme ça, comme un objet, c'est douloureux.
Vous avez vécu d'autres naufrages du même type ?
Moi, personnellement, non. Mais effectivement, mes collègues bénévoles, bien sûr. Notamment des naufrages où, quand les corps des victimes sont là depuis trop longtemps, ben, ça attire les requins. Et nous, on a quand même toutes les espèces de requins ici, dans le lac. Enfin, pas dans l'Angon, dans l'extérieur du lagon. Donc, dès que le corps remonte après 10-12 heures dans l'eau, les requins sont souvent là avec nous quand on va les chercher et que c'est trop tard.
C'était en 2019, la première venue ici à Mayotte. Et puis la PAF m'a arrêté. Je suis retourné aux Comores. Et puis juste une semaine après, je suis encore revenu ici.
Nakshi, citoyen comorien, 27 ans.
Après, vous n'avez jusqu'à 10 ans. Puis je suis redescendu. Je me suis livré simplement à la PAF. Je suis redescendu. Je suis resté jusqu'à 2020.
après 2020, c'est là que je suis venu ici, que je ne suis jamais parti aux Comores. Chez nous, aux Comores, tu peux travailler autant, mais tu ne peux pas gagner ce que tu gagnes en une seule journée ici. Même si c'est petit pour certains, mais nous, dès qu'on te paye là, tu deviens déjà content de ce que tu trouves, parce que tu trouves le triple de ce que tu vas gagner aux Comores.
Vous avez un travail, vous travaillez dans quel domaine ?
Je fais de la mécanique moto, et puis là, je fais aussi le maçon aussi. Mais tout ça, je le fais en se cachant.
Parce que vous pouvez être arrêté à tout instant, en fait.
Il y a des fois, s'ils passent, qu'ils nous voient, ils nous arrêtent, mais il y a des fois qu'il y a certaines personnes qui les appellent directement, dire que telle partie, il y a des étrangers qui essaient de travailler. D'un seul coup, ils arrivent là. Et nous, la majeure partie, soit on s'enfuit, soit on essaie de trouver un espace pour se cacher en attendant qu'ils partent.
Vous avez fait 3 fois la traversée. Est-ce que vous avez peur ?
Ce qui me fait peur, c'est que c'est pas la mer. Non, c'est la PAF quand il nous poursuit. C'est là qui nous fait tellement peur parce qu'il reste de chavirer. Le Kwasa, quand il descend même dans des cailloux. Du coup, le capitaine, il accélère jusqu'à avoir pillé et puis il laisse le bateau. Il saute aussi. Du coup, on s'enfuit. Depuis ce jour-là, c'est là que j'ai eu tellement la peur au ventre jusqu'à aujourd'hui.
Et là, j'imagine que vous êtes à Mayotte, mais vous pouvez être arrêté du jour au lendemain. Donc vous économisez au cas où il faudrait faire le voyage.
C'est ce qu'on fait la majeure partie. Dès qu'on est ici, quand tu travailles, du coup, nous, la majeure partie, on fait des économies, on les envoie là-bas. Et dès qu'on nous arrête, là, on se dit, j'ai déjà mon billet de retour directement.
Communication établie.
C'est le commandant.
La porte est ouverte.
Merci.
Alors, voici le chef de poste. Alors, ici, c'est la surveillance vidéo du site et le positionnement des étrangers en situation irrégulière qui sont interpellés par les différentes forces sur Mayotte, donc police, gendarmerie, sur mer et sur terre. Nous, on est au bout de la chaîne.
Centre de rétention administrative de Mayotte.
À ce jour, donc on est le 26 mars, nous avons éloigné vers Madagascar et les Comores 4300 étrangers en situation irrégulière.
Major Régine Bernardet, adjointe au chef du centre de rétention.
Pour éloigner 25 000 par an, forcément, on a un système qui est mis en place, c'est assez fluide. C'est-à-dire, on éloigne le matin et on intègre le soir. C'est-à-dire, le matin, les brigades extraient les retenues des zones et les emmènent au bateau. Et dans l'après-midi, ils intègrent les interpellés du matin par le GAO, groupe appui opérationnel. Ah non, ça s'est éteint. Bon, alors, on a aussi fait une campagne. Alors, pour beaucoup de choses, Mayotte est atypique, et notamment notre CRA. Donc, on s'est dit, profitons de ce temps de rétention ici pour passer des messages de sensibilisation, pour sensibiliser au risque en mer. Parce que chaque année, il y a énormément de morts en mer. Donc, on a fait un petit clip, type un peu choc, type sécurité routière, pour sensibiliser les gens qui sont ici à l'intégration et que ça fasse un électrochoc. Donc c'est pareil, si on arrive par année à en convaincre 10 ou 15 de ne pas revenir, c'est gagné.
Peut-être avec la télécommande, ce sera peut-être plus simple.
Sinon, on fait tout.
Un voyage commence par un choix. Un choix qui peut changer une vie, sauver une vie. Les traversées illégales vers Mayotte, une route périlleuse, une décision lourde de conséquences. Derrière la promesse d'un nouveau départ se cache un risque mortel. Chaque année, des vies se perdent dans l'espoir d'un avenir meilleur.
En général, ça s'est bien perçu par les gens qui sont accueillis ici. Et je pense, notamment dans le visage des parents, ça,
des rêves engloutis par les flots.
Ça marque. Parce que je pense que mourir en mer, il y en a beaucoup qui n'imaginent pas, en fait.
La sécurité n'est pas laissée au hasard. Optez pour les voies légales.
Donc voilà, on y tenait beaucoup. Ça fait un an qu'on dispose de ce clip. On ne le diffuse pas systématiquement, mais quand il y a des quoi ça qui arrivent, on le diffuse.
Votre vie a une valeur inestimable. Ne laissez pas la mer décider de votre destin. Pour vous, pour ceux que vous aimez, choisissez la voie légale. Pour un avenir ensemble.
Je ne vais pas faire trop long. Donc ici, c'est la zone où on leur notifie les droits, leur placement en CRA. On leur distribue un kit d'hygiène. Donc brosse à dents, serviette, de quoi se laver les dents et le corps. Et un drap pour le matelas. Voilà. Les objets de valeur sont écartés, sont placés dans des coffres individuels, propres à chaque retenue. Et les bagages sont déposés ici.
Donc une salle avec des étagères où l'on peut apercevoir des sacs, des chaussures, un casque de moto, des sacs plastiques avec des vêtements dedans.
Donc on bascule en rétention là.
Ok.
On bascule en rétention pour un policier interdit d'armes dans cette zone. Voilà. Le seul moyen de défense, c'est le bâton de défense ou lacrymogène. À Mayotte, ici, la situation est plutôt calme, contrairement au CRA de métropole. Il est très rare qu'on en vienne...
Comment vous expliquez, justement, que ce soit calme ici?
Peut-être que la traversée n'est pas si périlleuse et que le coût de la traversée n'est pas si important. Enfin,
voilà. À vous entendre, on dirait qu'il y a presque un caractère routinier de passer par le CRA.
C'est quelque chose... On est très connu à Mayotte, enfin, la PAF. Oui, ils vivent avec ça, en fait. Voilà. Il y a une certaine sagesse, de résignation, certainement parce qu'ils savent qu'ils reviendront demain. Okay. Voilà. Et puis, de temps en temps, on reconnaît les individus le surlendemain ou le, voilà, 3 jours après, parce qu'ils ont été interceptés en quoi ça, parce que... Ouais, ouais. Les enseignants, chaque année, répètent les mêmes cours l'année suivante à une autre classe. Moi, c'est ce qu'on fait. On protège les frontières et ça ne me dérange pas d'accueillir 10 fois la même personne. Mon travail, c'est d'éloigner des gens qui ne sont pas autorisés à séjourner sur le territoire français.
Ce CRA est, si vous en avez visité d'autres, quand même un très beau bâtiment qui se rapproche au plus près des normes que nous impose le droit, hein, le volet juridique.
Commandante Cécilia Di Piro.
C'est un CRA qui est bien tenu.
Chef du service territorial de la police aux frontières à Mayotte.
Bien tenu parce que les effectifs sont très consciencieux. Et également, on a malgré tout une chance, c'est que ce CRA a un taux d'occupation qui est très réduit. Contrairement à ce qui se fait en métropole. En métropole, vous avez des gens qui sont hébergés dans... retenus dans le CRA pendant 90 jours. Ici, c'est très rarement le cas. D'une manière générale, c'est un turnover.
Ce que vous voulez dire, c'est que la moyenne de rétention en temps est de 17 à 24 heures, c'est ça, ici?
On dit 1,2 jours, nous. 1,2 on compte comme jours. Ça, oui, okay. Tout à fait.
Et comment vous expliquez ce temps si court?
Alors le temps si court, c'est la distance entre les Comores et Mayotte, elle n'est que de 70 km, donc ça va très vite pour éloigner. C'est vraiment un process qui est fluide. Et il n'y a aucun intérêt à garder des gens en rétention que le pays d'accueil accepte de recevoir. Nous avons la chance quand même de pouvoir organiser un éloignement par jour, maritime. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, effectivement, des gens en situation irrégulière se cachent. De sorte qu'à des heures bien définies, se renseignent. Il y a des réseaux qui sont structurés, qui leur disent bien, abritez-vous de telle heure à telle heure, ne sortez pas de telle heure à telle heure, réfugiez-vous dans un dispensaire ou même dans une mosquée lorsque vous voyez des fessis se diriger vers vous.
Des fessis
Pardon, force de sécurité intérieure.
Alors un policier en moyenne de brigade fait 6 à 8 km par jour.
Waouh.
Moi non, moi je suis
chef
sous clim. Non, je rigole. Je fais un peu moins de kilomètres que mes collègues. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Zonome. Voilà.
Enchanté.
Voilà.
Raphaël de la radio, Radio France.
Welcome.
Merci.
Bienvenue. Venez monsieur.
Est-ce que je peux juste un peu
non, alors, la chanson? Non, ils veulent. Okay, non, c'est des Africains là.
Okay. Ah, ok, d'accord.
Okay. Donc, la zone famille, comme je vous disais, atypique sur le plan de la rétention, puisqu'en France, on a tendance à ne plus de placer de moins en moins de mineurs en CRA. Et ici, donc, on a voulu faire une zone vraiment apaisante avec des pictos murs, des dessins et puis des jeux d'extérieur. On va sortir pour que les enfants se sentent bien et pas trop oppressés sur l'enfermement qu'ils vont vivre quelques jours. Et souvent, ils ne veulent pas partir. Voilà. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans les Kwasa Kwasa, ils n'ont pas ce confort de vie. Hein. Donc il faut toujours faire un parallèle avec leur vie sur Mayotte. Donc pour l'esprit d'un Européen ou comme nous de Français, ça peut être choquant de se retrouver enfermé entre quatre murs pendant des jours. Alors qu'eux, finalement, ils sont dans leur banga, sans eau courante, sans électricité, sans jeu surtout. Et une violence certaine quand même dans les bangas, notamment Kaweni. Je ne sais pas si vous allez faire un tour. Banga, mais
c'est le nom qui est utilisé pour,
les cases en tôle. Voilà. Artiste assez connu de Mayotte, Papa Yann, qui a fait les fresques donc avec les maquis. Donc il a voulu partager son esprit de partage, enfin voilà. Donc là, actuellement, on n'a que des femmes, enfin des femmes avec des enfants.
Ils sont assez jeunes, on dirait.
Les femmes ?
Non, les enfants.
Les enfants, j'en ai à partir de 5 ans, là.
Okay.
Voilà. On a une zone tampon d'habits, notamment pour les gens qui arrivent en Kwasa-Kwasa quand ils sont trop souillés, urine, ils voyagent de temps en temps avec des zébus ou des chèvres.
J'imagine qu'il y a souvent de l'essence également.
De l'essence, donc on a un petit stock fourni par les associations pour les changer si nécessaire.
Okay.
Voilà. Et voilà, monsieur. On revient au poste.
Je pourrais dire qu'il y a deux catégories de personnes qu'on rencontre au CRA. Il y a une partie qui sont de jeunes qui sont nés sur le département, donc qui ont toujours vécu à Mayotte, donc pour le coup qui n'ont jamais vécu de traversée en Kwasa et qui ont fait toute leur vie ici. Et la deuxième catégorie de personnes qu'on peut rencontrer, effectivement, c'est par exemple des parents d'enfants français ou des personnes qui sont arrivées avant 13 ans et qui, elles, ont vécu cette traversée en Kwasa et cette venue à Mayotte de manière illégale.
Charlotte, juriste au centre de rétention administrative de Mayotte.
Je ne sais pas si j'utiliserais le mot triste pour décrire ce que je ressens de cette situation, mais je trouve ça assez affligeant que des jeunes qui sont nés ici ou des parents d'enfants français se retrouvent dans une situation où ils peuvent être placés au centre de rétention et potentiellement être expulsés et que ça devient, je dirais, une sorte...
De normalité
et comme si c'était une activité possible à Mayotte, comme j'irais faire quelque chose de ma journée. Eux, ils savent que dans l'année, ils peuvent se faire interpeller, ils peuvent être placés en rétention et ils peuvent du jour au lendemain se retrouver dans un autre pays, pour certains qui n'ont jamais visité et qui, pour la plupart des personnes, reviendront en Kwasa Kwasa, qui reste une traversée compliquée et périlleuse.
Ce que l'on constate, c'est que déjà au début des années 2000, il y a la volonté du législateur, rapports sénatoriaux, parlementaires, d'augmenter toujours les services de police aux frontières. Et quand on regarde l'évolution de la population et l'évolution de la présence de personnes en situation irrégulière ou irrégularisée, on constate que la répression, le rideau de fer ne fonctionne pas et qu'il ne fait que produire que des morts finalement.
Il ne fait que produire des morts.
Marjane Gaëm.
Une jeunesse qui est en dépression.
Avocate, membre du GISTI.
Des grandes difficultés sur le territoire. Et effectivement, si on faisait un audit de ces politiques, l'État a dépensé beaucoup d'argent pour rien du tout. Et beaucoup d'argent qui sont versés notamment aux autorités comoriennes. En échange, finalement, en monnaie d'échange de ces éloignements. Mais il y a beaucoup de policiers qui interrogent ce qu'ils font. Et qui sont contre, en fait. Ils voient pas le sens de tout ça. Ils trouvent ça absurde, mais ils obéissent. Et c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il a dit finalement, le titre de séjour territorialisé, il n'y sera mis fin que quand le problème de l'immigration sera résolu. Mais le problème, si tant est qu'il y en ait un, il sera jamais résolu. Il y aura toujours des personnes qui viendront parce qu'elles ont des liens, parce que en réalité l'étranger à Mayotte, c'est quand même plus le Mzungu.
Le Mzungu, c'est le métropolitain.
Que le Comorien, qui lorsqu'il arrive, il sait exactement où il va. Duni aibadili hafiki razidangani ha evanuri kenda hubi. Wala waho mwezi ni wasangwa fuhanza ya evanuri kenda hubi.
Où est-ce qu'on se trouve là, Jean ?
Nous sommes au centre du village d'Akwa et nous arrivons au cimetière dans un instant pour l'inhumation du Kwasa. Magnifique cimetière au bord de la plage. Salam alaikum.
Voilà.
Donc c'est vous qui avez creusé la tombe ?
Ouais.
Il est bien emballé et c'est étanche, vous risquez rien. Il n'y a pas d'odeur.
Mais est-ce qu'il n'est pas dans un cercueil ?
Ah si.
Ah ok.
Ici.
Ça marche.
Dans un cercueil étanche. Ah, okay. C'est obligatoire parce qu'il y a eu une autopsie et c'est obligatoire parce qu'il est en décomposition. C'est trop dangereux. Tu te mets derrière eux.
Ouais.
Tu te mets pas sur le côté, tu te mets pas devant.
Ok.
Mais derrière eux.
Pour quelle raison ?
Parce que t'es pas musulman.
Ok.
Tout simplement. Vous allez le monter en haut là-haut ?
Ouais, en haut.
Faites attention, pas glisser. Hein.
Oui, je vais mettre plus, s'il vous plaît. Donc, ils m'ont aidé.
Venez par là. Tu te mets en face. Et tu feras attention à tes doigts, mon ami. Prends ici, là, prends ici en bas.
Les hommes sont en train de caler le cercueil avec des pierres. Le trou a été creusé à flanc de colline. Il y a beaucoup de pierres. Ça n'a pas dû être facile. Et on recouvre le cercueil de terre. C'était Mayotte, dernier des départements, premier épisode, Jazirat al-Maut, l'île de la mort, un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakuboviez. Avec Jean L'Huillier, François-Xavier Bieuville, Major Al-Malem, Ahmed Oumadi Mortada, Jassadi, Marjane Gahem, Romain Pranveille, Pierre Vedovato, Nakshi, Major Régine Bernardet, Commandante Cécilia Di Piro et Charlotte. Musique originale, Abou Chiabi, dont l'éphémère hymne national des Comores de 1976 à 1978. Traduction Mustapha Mawinda, mixage Antoine Viossa, chargé de programme Marie-Bonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin.